Kiosque Magazine.
Jeudi 13 août, c'est presque une journée d'automne. J'ai eu la surprise en sortant de chez moi d'écraser quelques feuilles mortes de marronnier. La nostalgie est déjà au rendez-vous. Non, allez, ça va s'arranger. On aura sûrement un extraordinaire mois de septembre. En tout cas, pour se consoler, on va parler d'économie pendant une heure. Éric de Belval, je suis avec vous. Je suis tout seul. François Brodeur est toujours en vacances. Nous les lui souhaitons excellente en attendant de le retrouver la semaine prochaine. Alors, de quoi parlons-nous cette semaine? Enfin, aujourd'hui, pardon. Et on commence par parler de la Russie, parce qu'évidemment, le conflit, enfin entre guillemets, parce que ça n'en est pas encore un, mais en tout cas, les revendications sur l'Arctique continuent de faire énormément de bruit. Et la Russie réclame donc une nouvelle extension de la zone telle qu'elle a été délimitée par un accord il y a déjà quelques années. On reviendra là-dessus. Alors ensuite, ah oui, je vous parlais de rentrée, vous savez que tout augmente en général en septembre, enfin un certain nombre de choses, le gaz, le métro, enfin on pourrait faire une liste assez longue. Eh bien, mais il y a les frais bancaires aussi, alors là, il y a de quoi protester parce qu'on sait que les banques ne sont guère à plaindre, on sait aussi que la tarification ne se prive pas de faire des augmentations dont on peut se demander si elles sont vraiment justifiées, eh bien, on en fera un petit inventaire. Alors dans la série « Comment faire des économies », eh bien, vous savez que, notamment en période électorale, et nous rentrons dans une période électorale forte importante, le fisc nous invite à gagner de l'argent en faisant par exemple des rénovations. Ah, le vieux coût de la rénovation et des crédits qui s'y rattachent. Alors, là aussi, un petit éclairage un peu détaillé ne fera pas de mal. Alors ensuite, un sujet de macroéconomie. La productivité. Vous savez qu'en économie, la productivité entend mesurer le degré de contribution d'un ou de plusieurs facteurs de production. Et puis, on les compare avec le résultat final dégagé par un processus de transformation. C'est un peu technique, mais bon, il faut bien que les concepts économiques aient une définition, parce que comme ça, ça donne vraiment l'impression qu'ils sont utiles et qu'ils servent à quelque chose. Eh bien, on peut aussi constater que ces critères subissent un certain vieillissement et la productivité, là aussi, il faudrait redéfinir ce que c'est exactement. Et puis pour finir, deux grands beaux sujets de société. La télévision, les groupes de télévision sont rattrapés par le virage numérique. Les actions, par exemple, l'action de Disney est en train de plonger, suivie d'ailleurs par d'autres actions de grands groupes de télé américains. Vous savez que nos habitudes changent, que maintenant les grands postes derrière, devant lesquels toute la famille se cavant de pop-corn et d'autres choses dont je ne donnerai pas les noms pour ne pas donner de vilaines envies ce matin à 9h. Tout ça semble un petit peu terminé. Tout le monde a son téléphone pseudo-intelligent, sa tablette et je ne sais quoi, avec lesquels il regarde des images qui bougent au lieu de lire. Franchement, non mais qu'est-ce que vous faites devant vos écrans? Je vous le demande. En tout cas, vous faites chuter les actions des groupes de télévision. Bon, c'est peut-être pas, je trouve que ça me gêne pas trop. Et puis pour finir, ah là là, une belle histoire. Figurez-vous que George Lucas, tout le monde le connaît, la guerre des étoiles, etc., il veut construire des logements sociaux au nord de San Francisco. Ah, cette fibre humanitaire qui touche les grands milliardaires modernes, c'est tellement touchant. Eh bien, si vous voulez un potager, un verger, une petite ferme, une piscine, des jardins, un centre communautaire à côté de la Silicon Valley, écrivez à George Lucas, ou plutôt inscrivez-vous sur une liste d'attente, il y a beaucoup de monde. Mais vous verrez que, ah là là, l'altruisme, c'est quand même un sacré problème, surtout quand en face de vous, vous avez des gens qui veulent pas que vous habitiez chez vous, parce que, oh là là, vous sentez mauvais, vous n'êtes pas assez riche, et puis est-ce que vous êtes vraiment high-tech, c'est pas sûr. Enfin, on verra à quoi se heurte la philanthropie de nos jours, et tout ça dans quelques instants. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'en 2007, le GIEC, vous savez, le GIEC, c'est cette grande institution qui s'occupe de réfléchir sur l'évolution des conditions climatiques, et a établi que les richesses maritimes, de nouvelles richesses maritimes vont être accessibles en fonction du changement de climat. Et c'est évidemment le cas de la zone polaire qui pourrait connaître un changement similaire à celui du Moyen-Orient du fait de l'ouverture du canal de Suez au 19e siècle. On assistera évidemment à une course entre pays pour le pétrole, pour la pêche, pour les diamants. et tout ça va s'accélérer en fait, du réchauffement climatique. Ça a intéressé la Tribune dans un article qui n'est d'ailleurs pas signé et qui, c'est peut-être parce qu'on parle de la Russie qu'il ne faut pas froisser certaines personnes, je ne sais pas. Bon, en tout cas, la Russie, eh bien, elle revendique 1,2 million de kilomètres carrés de plus en Arctique. La région polaire attise les convoitises avec ses vastes gisements de pétrole et notamment de gaz. Sa première requête rejetée en 2001, Moscou revient devant les Nations Unies après avoir mené plusieurs expéditions scientifiques dont les résultats sont censés prouver son droit à une plus grosse part du gâteau. Mardi 4 août, la Russie a revendiqué auprès des Nations Unies la souveraineté sur plus de 1 million de kilomètres carrés de la zone arctique, zone qui recèle de vastes réserves d'hydrocarbures. La Russie revient ainsi à la charge avec de nouvelles preuves, près de 15 ans après le rejet d'une première requête. Cette demande devrait accélérer la course aux revendications dans cette région inhabitée mais riche en ressources naturelles que se disputent depuis des années la Russie, les États-Unis avec l'Alaska, le Canada, la Norvège et le Danemark avec le Groenland. Dans sa requête déposée devant la commission de l'ONU, travaillant sur les limites du plateau continental, Moscou fait valoir qu'au vu de ses recherches scientifiques, elle devrait avoir la souveraineté sur 1,2 million de kilomètres carrés supplémentaires dans l'Arctique. En 2001, après une première demande des autorités russes jugée recevable, l'ONU avait réclamé à Moscou d'apporter davantage de preuves pour appuyer sa revendication. Le droit de la mer fixe actuellement la zone économique exclusive d'un pays à 2000 milles marins, environ 370 km de ses côtes, lui donnant la souveraineté dans cette zone pour en exploiter les ressources. Au-delà, les eaux sont considérées juridiquement comme étant internationales. Un pays a toutefois le droit de revendiquer l'extension de sa zone économique exclusive au-delà des 200 000 traditionnels et jusque dans une limite de 350 000 en faisant entrer en ligne de compte, études géologiques à l'appui, les limites de son plateau continental qui s'étend sous les eaux. La Russie a ainsi mené plusieurs expéditions scientifiques polaires d'envergure pour collecter des données afin de prouver que les limites du plateau continental russe dans l'Arctique s'étendent bien au-delà de ses limites officielles actuelles. Et en 2007, une expédition a effectué une plongée record dans les profondeurs de l'océan Arctique, plantant symboliquement à cette occasion un drapeau russe en titane, oh, un drapeau russe en titane, génial, au fond des eaux polaires, à la verticale exacte du pôle Nord géographique. Les revendications de Moscou s'étendent jusqu'au pôle Nord et comprennent une partie de la dorsale de Lomonossov, également revendiquée par le Danemark et le Canada, ainsi que celle de Mendeleïev, considérée par la Russie comme étant partie intégrante du continent eurasiatique. Là, on sent que vraiment l'accord n'est pas quelque chose d'acquis. Si sa demande était reconnue comme légitime, elle donnerait potentiellement à la Russie, la voilà la clé, l'accès à des réserves d'hydrocarbures d'un total de, tenez-vous bien, 4,9 milliards de tonnes, selon le gouvernement russe. Selon une étude américaine de 2008, 13% du pétrole et 30% du gaz naturel non découvert de la planète se trouvent dans le sous-sol du Grand Nord. En outre, la fonte des glaciers pourrait ouvrir de nouvelles routes maritimes pour le commerce pendant l'été dès 2050, selon certaines études scientifiques. Le Canada, la Norvège et le Danemark ont eux aussi organisé au cours des dernières années des missions scientifiques dans l'Arctique pour cartographier les fonds marins et étayer leurs revendications déposées devant la Commission des Nations Unies. La fonte des glaciers dans l'Arctique met à nu une mer nouvelle et vulnérable, mais certains pays comme la Russie et la Norvège veulent la transformer en future Arabie Saoudite. À moins d'agir, cette région pourrait se voir remplie de plateformes pétrolières et de flottes de navires de pêche, a dénoncé mardi l'ONG Greenpeace. En effet, la région regorge de ressources halieutiques et d'espèces économiquement intéressantes, comme le précisait Didier Schmidt, conseiller scientifique en 2014. Mais au-delà de ses revendications territoriales, la Russie met l'accent depuis plusieurs années sur cette région stratégique, tant du point de vue économique que militaire. Vladimir Poutine a ainsi ordonné en début d'année la mise en place d'une commission spéciale pour développer les projets économiques dans l'Arctique, tandis que des manœuvres militaires d'ampleur s'y sont multipliées. La doctrine militaire navale russe a également été modifiée en juillet pour mettre l'accent sur l'importance stratégique de la zone, avec notamment le développement de la flotte du Nord. Dès 2008, le Kremlin avait validé une stratégie pour faire de la Russie la principale puissance de l'Arctique d'ici à 2020. Selon Viktor Pospelov, un des scientifiques russes qui a participé à la préparation du dossier présenté par Moscou, la demande russe a un statut prioritaire puisqu'elle s'appuie sur une requête déjà déposée en 2001 et devrait être examinée en février. Les données fournies par Moscou seront ensuite étudiées pendant au maximum 3 ans. Un porte-parole de l'ONU a confirmé que la requête russe sera examinée en février ou mars 2016. Eh bien, inutile de vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, fût-elle une auberge de glace. Ah, les relations avec nos banques, comme j'aime parler de ces sujets. Eh bien, les frais bancaires ne représentent, allez-vous me dire, peut-être que quelques dollars. Mais ces quelques dollars, eh bien, ils ont le don de nous faire râler, nous, les consommateurs. Surtout quand ils augmentent ou quand ils se multiplient. Hein, et c'est arrivé ces dernières semaines. Mais évidemment, changer d'institution financière, c'est tellement laborieux qu'il faut être très décidé ou en avoir vraiment ras-le-bol pour passer à l'acte. Alors, Isabelle Ducas, dans la presse, s'est intéressée au sujet et on voit tout de suite qu'elle a pris un parti qui est clairement du côté du consommateur puisque ça s'appelle des frais durs à avaler. Les frais se multiplient, mais ce qui est dommage, c'est que bien des gens ne savent pas combien ils paient en frais bancaires, souligne Karine Robillard, conseillère budgétaire à Options Consommateurs. Selon un sondage Angus Reid paru en 2011, le Canadien moyen paie 185 dollars par année en frais bancaires, soit 15,41 dollars par mois ou 30,81 par couple. Dans certains cas, la facture peut être beaucoup plus salée. Suffit qu'on utilise sa carte de débit au guichet d'une autre institution financière, et ça peut aller jusqu'à 8 dollars par retrait, ou à l'étranger, ça peut aller jusqu'à 20 dollars, ou qu'on ait un chèque sans provision. Hein, à la Banque Laurentienne, ça coûte combien un chèque sans provision? Allez, je vous donne le chiffre, vous êtes assis, 65 dollars. Pour tout ça, évidemment, pour déséquilibrer le budget familial. Si on ajoute une commande de chèque, environ 1 dollar par chèque, la nécessité de faire un chèque certifié, 10 ou 15 dollars, bon, moi je peux vous dire que c'est beaucoup plus cher, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, ça m'a coûté 3 fois ça, ou l'envoi d'un relevé par la poste, la facture grimpe encore. Et on ne parle même pas ici des cartes de crédit, hein. Frais annuels pour une carte avec récompense, intérêt sur un solde impayé, frais pour dépassement de la limite, etc., etc. Pas surprenant que les consommateurs en aient ras-le-bol et ils commencent à le faire savoir de plus en plus clairement aux banques. En mai dernier, la Banque Royale a dû reculer sur une hausse de tarifs annoncée après avoir essuyé de nombreuses critiques. Il faut dire que la mesure en question, qui faisait partie d'une série d'augmentations, était particulièrement douteuse. Les clients désirant rembourser leur hypothèque ou d'autres prêts à partir de leur compte d'épargne allaient devoir payer des frais de 2 à 5 dollars après avoir dépassé le nombre d'opérations permises à leur forfait. Si ces frais sont tellement décriés, c'est qu'ils donnent aux consommateurs l'impression de payer pour avoir accès à leur propre argent et que les profits des banques sont faramineux. En mai dernier, les six grandes banques canadiennes ont déclaré des profits records cumulés de 8,5 milliards pour leur dernier trimestre. C'est l'équivalent, tenez-vous bien, de plus de 93 millions en profits nets chaque jour. L'an dernier, le bénéfice cumulé des six banques avait déjà battu un record, 33 milliards, en hausse de 8,5%. Eh bien, cette marque pourrait être dépassée cette année. Les banques canadiennes sont en situation de quasi-monopole et elles peuvent nous passer n'importe quoi. Le MEDAC dénonce notamment les salaires trop élevés des grands banquiers et tente de leur imposer une limite lors d'interventions dans les assemblées d'actionnaires des grandes banques. Dans son budget de 2013, le gouvernement de Stephen Harper avait promis un code de protection du consommateur en matière financière, parce qu'en général, ça fait partie des grandes promesses dans les campagnes électorales, qui se pencherait notamment sur les frais bancaires. Ce code, eh ben, il n'est toujours pas en place. Les frais bancaires mensuels, je sais bien que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, mais enfin quand même. Les frais bancaires ont augmenté de 13,6% entre 2005 et 2013 sous le rythme de l'inflation. Mais les frais variables, qui ne sont pas inclus dans les forfaits mensuels, eh bien dans la même période, tenez-vous bien, eux, ils ont augmenté de 46%. Vu que le secteur bancaire du Canada est perçu comme faisant l'objet d'une forte concentration, des préoccupations ont été soulevées quant à la possibilité que les consommateurs subissent les effets néfastes de prix qui ne sont pas optimaux. Indisposés par les frais qui se multiplient dans vos comptes bancaires, voici quelques trucs pour les faire fondre. Alors, à la demande d'Ottawa, les banques offrent maintenant des services peu coûteux. Eh bien, le forfait le moins cher est chez Desjardins, 2,95 par mois pour 7 transactions. Dans les banques, 3,95 pour 12 transactions. Les plus actifs doivent payer de 7 à 10 dollars pour des forfaits d'une vingtaine d'opérations. Et pour le service VIP, la facture mensuelle peut atteindre 30 dollars. Des services gratuits existent pour les 18 ans et moins, les étudiants et les personnes âgées à faible revenu. Les personnes âgées ou les clients utilisant plusieurs produits et services de la même banque peuvent aussi obtenir des rabais. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada offre sur son site web, donc allez-y, un outil très utile pour comparer les comptes. Ben oui, on a trop souvent tendance à penser qu'une banque, c'est une banque et que ça coûte à peu près la même chose partout, mais ce n'est pas du tout le cas. Vous avez un coussin financier dans un compte d'épargne en cas d'imprévu? Une somme de 3 000 dollars qui ne rapporte que 0,8% d'intérêt pourrait être transférée dans votre compte avec opération pour économiser 13,95 dollars en frais mensuels. Faut faire le calcul. Faites vos retraits seulement au guichet automatique de votre institution financière pour éviter les frais variant entre 1 et 8 dollars. Fuyez les guichets privés très gourmands qui ne sont affiliés à aucune institution financière, à réserver aux urgences seulement. Pensez d'ailleurs à retirer une somme quand vous faites un paiement par carte de débit dans un commerce. Vous éviterez ainsi une visite au guichet automatique et les frais qui vont avec. Par contre, rien ne vous oblige à concentrer tous vos services au même endroit. Si c'est plus économique, vous pouvez avoir votre hypothèque avec une institution, votre compte chèque et votre carte de crédit ailleurs. Des banques virtuelles sans succursale misent sur des services moins chers et des taux d'intérêt un peu plus généreux sur l'épargne pour attirer les clients. Oui, ça, on en parlait la semaine dernière. C'est toute la question de l'ubérisation qui touche également les banques. Et on sait qu'il peut être bien tentant d'aller sur Internet pour gérer ses affaires avec un contact virtuel et puis un robot qui ne s'occupera pas de vos états d'âme quand vous viendrez pleurer sur un crédit qui est beaucoup trop cher. Cela dit, comme il sera d'emblée beaucoup moins cher, peut-être qu'il n'y aura pas besoin de verser des larmes. Mais, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à avoir des guichets purement virtuels. Je ne sais pas si on peut mener une vie purement virtuelle. Je sais bien qu'il existe une virtualité de l'argent et que d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est le premier domaine qui devrait considérer que la virtualité est en quelque sorte son parent le plus proche. Mais j'ai pas envie non plus de défendre les banques après un article pareil. Mais quand même, j'ai quand même envie de voir derrière le guichet, oh là là, une gentille dame qui me parle gentiment, qui me dit des choses agréables, même si au fond, tout ce qu'elle cherche à faire, c'est à prendre mon argent.
Ma maison travaille plus que moi. Je chôme mais je cherche une manière. Pour l'argent gratis, peu d'efforts. Le travail, l'allergie, moi aussi. Je brûle les machines, la cime de l'usine, les rouages de la politesse. L'horloge dans l'horloge. Le travail, l'allergie, moi aussi je peux. L'hiver, je peux moins.
Ma maison travaille plus que moi. Tout un programme qui nous était chanté par Urbain Desbois sur un ton un peu lascif. Finalement, ça donne envie de rentrer dans sa maison, se mettre sous la couette et d'attendre que la journée passe tranquillement. Naturellement, il n'en est pas question. On est ici pour parler d'économie, donc d'activité. Et vous vous souvenez peut-être qu'on a beaucoup commenté la récession avec laquelle semble flirter l'économie. Du pays. Alors je dis semble parce qu'il y a tellement de points de vue pour dire le contraire qu'on ne sait plus. Mais pour stimuler cette économie, eh bien quoi de mieux qu'un bon vieux crédit d'impôt à la rénovation. C'est ce que le fisc semble, sous l'impulsion naturellement donnée par le ministère des Finances, nous rappeler assez régulièrement, plus particulièrement quand on est en campagne électorale, ce qui va bientôt être le cas. Ça a intéressé Stéphanie Gramont dans la presse qui nous parle du vieux coût du crédit à la rénovation. Dès le jour 3 de sa campagne électorale, Stephen Harper n'a pas hésité à resservir cette recette éprouvée en promettant un nouveau crédit pour la rénovation domiciliaire d'une valeur de 1,5 milliard par année. Rien de neuf sous le soleil. En 2013, les péquistes avaient mis sur pied un crédit pour fouetter l'économie. Les libéraux de Philippe Couillard y avaient superposé leur propre crédit dès leur accession au pouvoir en 2014. Et souvenez-vous, en 2009, les conservateurs avaient eux-mêmes offert un crédit à la rénovation pour aider le pays à résister aux effets de la crise du crédit. Mais cette fois, c'est différent. Le crédit proposé serait permanent, une bonne idée pour lutter contre le travail au noir. Maison, condo, chalet. Année après année, les propriétaires auraient droit à un coup de main pour financer la rénovation de leur cuisine, la finition de leur sous-sol et toutes sortes d'autres projets d'amélioration de leur résidence. Sans doute, l'aide fiscale séduira un grand nombre de Canadiens, puisque 69% des ménages sont propriétaires de leur maison. 61% au Québec. Encore un petit peu de terrain à rattraper. Les célibataires endurcis, qui désespéraient peut-être d'obtenir des allègements fiscaux après l'avalanche de cadeaux offerts aux familles avec enfants, bonification de la prestation universelle pour la garde des enfants, fractionnement des revenus pour les familles avec enfants mineurs, etc., y trouveront enfin une mesure pouvant leur être utile. Mais il y a un bémol. Si le futur crédit est non remboursable, comme l'était le crédit conçu par les conservateurs en 2009, seuls les contribuables qui paient des impôts y auront droit. Pour les autres, l'économie d'impôts n'aura aucune valeur. Ce n'était pas le cas au provincial, où les deux crédits offerts ces dernières années étaient remboursables, ce qui permettait vraiment à tous les proprios d'en profiter. Il est encore bientôt pour discuter des détails de cet éventuel crédit, mais si l'on se fie aux informations présentées hier par le Parti conservateur, les contribuables pourraient recevoir jusqu'à 600 $ par année, 500 $ pour les Québécois. Pas possible ça, toujours moins que les autres, enfin quand même. En fait, le crédit de 15% s'appliquerait sur la tranche de dépenses annuelles allant de 1 000 à 5 000 $. Le taux de crédit serait de 12,5% au Québec en considérant l'abattement fiscal. Le crédit serait donc moins généreux que son ancêtre de 2009 qui permettait d'obtenir une économie maximale de 1 350 $ et au Québec 1 125. Oh là là. Par contre, le crédit serait plus accessible que les récents crédits provinciaux qui s'appliquaient seulement sur les dépenses supérieures à 2 500 ou 3 000 $. Mais peu importe la formule, l'idée est toujours de stimuler l'économie. Et quand on sait que les dépenses de rénovation ont grimpé de 8% en 2014 au Québec, alors que l'économie tournait au ralenti, on peut conclure que les crédits à la rénovation ont bel et bien un effet stimulant. Mais cette fois-ci, la mesure pourrait-elle avoir l'effet inverse? C'est qu'advenant leur réélection, les conservateurs ne veulent pas l'implanter immédiatement. Ils parlent d'une mise en place en 2016-2017 ou au milieu de leur mandat, si la situation de l'économie le permet. Dans l'attente de ce crédit, on pourrait craindre que les propriétaires ne décident de reporter certaines rénovations, ce qui porterait ombrage à l'industrie de la construction au moment même où les mises en chantier sont à la baisse au Québec. Évidemment, avec l'économie qui tourne à vide et des finances publiques très serrées, Ottawa n'a peut-être pas les moyens de sortir de ses poches 1,5 milliard immédiatement. Mais d'une certaine façon, les crédits à la rénovation sont plutôt un investissement qu'une dépense, car ils permettent de lutter contre le travail au noir. Le propriétaire qui veut obtenir son crédit n'a d'autre choix que de demander une facture en bonne et due forme à son entrepreneur. Ainsi, chaque dollar investi légalement dans la rénovation résidentielle rapporte 30 cents au gouvernement en taxes, impôts et prélèvements de toutes sortes, soit 21 sous à Québec et 8,5 à Ottawa, faisait valoir l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec devant la commission Godbout l'année dernière. Vu sous cet angle, les crédits sont plutôt rentables. Le hic, c'est que le crédit fédéral de 2009 était applicable à une foule de dépenses, dont l'achat pur et simple de matériel. Cette formule a le mérite d'aider les bricoleurs qui font leur rénovation eux-mêmes, mais son efficacité pour la lutte contre le travail au noir est plus limitée. Cette fois, si l'on veut réellement faire la guerre à l'économie souterraine, il serait plus utile d'appliquer le crédit uniquement aux travaux réalisés par un entrepreneur. Alors, voilà une petite liste de possibilités d'obtenir des réductions. Alors, LogiRénov, par exemple, c'est un crédit d'impôt remboursable provincial de 20% qui a été lancé par le Parti libéral. Mais pour toucher l'aide maximale de 2 500 $, il fallait dépenser 15 500 parce que le crédit s'appliquait sur les dépenses excédant 3 000 $. Bon, en plus, il y avait au niveau des dates, il fallait faire ça entre le 25 avril 2014 et le 1er juillet 2015 et pour des travaux payés d'ici la fin 2015. Ensuite, il y a EcoRénov, c'est un crédit d'impôt remboursable provincial de 20%. Là, c'était le Parti québécois qui était à l'origine. Mais pour aller chercher le cadeau maximal de 10 000 $, il fallait quand même en dépenser 52 500. Bon, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Parce que, évidemment, la première tranche, celle qui est de la plus courue, de 2 500 $, ah, désolé, pas admissible. Bien. Là aussi, bon, il fallait que ça se passe entre le 7 octobre et le 1er novembre. Bon, bref, enfin, de 2013-2014, mais quand même. Ensuite, vous aviez le crédit d'impôt fédéral de 15% qui s'appliquait sur les dépenses dépassant 1 000 $ sans excéder 10 000. Ça permet, là, c'était pas mal. Hein. On avait une économie d'impôt de 1 350 $. Là, c'était entre 2009 et 2010. Donc, vous voyez, tout ça a évolué quand même à la baisse. Et puis la dernière, c'est Renault Climat. C'était une subvention. Elle est toujours offerte, là, depuis 2007, pour encourager les propriétaires à améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation. Bref, pour ça, comme pour le reste, comme pour toutes les publicités qui ne sont, comme vous le savez, qu'une variante du mensonge protégée par la loi, eh bien, il faut aller dans le détail, regarder vraiment les petites lignes, faire des calculs précis, ne pas penser que les miroirs aux alouettes vous permettent les rêves enchanteurs qu'on semblerait vouloir leur prêter, et garder bien les pieds sur terre. Le fisc ne fait pas beaucoup de cadeaux, et comme le disait un ministre célèbre de Roosevelt, il n'y a que deux choses certaines dans l'existence, la mort et les impôts. Une petite brève pour faire la transition. Comme on n'a pas de sujet sur l'informatique aujourd'hui, je voudrais vous donner des nouvelles de Windows 10 parce qu'on en parle beaucoup. Vous avez peut-être des alertes sur votre PC qui vous invitent à passer à Windows 10. C'est gratuit, semble-t-il, en tout cas pour commencer. Maintenant, ça le sera peut-être moins au bout d'une année. Enfin, regardez là aussi les petites lignes. Eh bien, on fait des découvertes dans les conditions d'utilisation, hein, de ce nouvel outil de Microsoft. Parce que tout n'est pas si rose. On découvre que pour profiter des mises à jour de Windows, eh bien, il faudra peut-être changer de PC. C'est évidemment un utilisateur qui a signalé l'information parce que tout le monde est en train de faire des essais et des tests, ce qui donne des indications tout à fait intéressantes. Parce que, encore une fois, théoriquement, vous pouvez mettre votre Windows 10 à jour jusqu'en 2025 gratuitement, mais à condition que votre PC ait un certain nombre de normes. Alors là aussi, je vous invite à aller regarder les petites lignes du contrat que vous fournit gratuitement Windows avec le soi-disant Windows 10 gratuit, et vous allez vous apercevoir que, ah, mais ma bécane, elle ne peut pas supporter ces jolies roues de course, donc faut peut-être que j'en change. Ah, mais quand j'en changerai, ah bah oui, dans le prix du nouveau PC, il y aura un nouveau Windows 10 dont la redevance aura été payée par le fabricant du PC à Windows 10. Bon, eh ben écoutez, c'est dramatique, il n'y a vraiment rien qui marche, il n'y a pas de gratuité dans cette société, mais où est-on? Moi, je croyais qu'il suffisait de croire tout ce qu'on nous raconte pour que ça devienne vrai. C'est pas le cas? Ah, bon, enfin, heureusement qu'il y a Kiosque Magazine qui vous alerte sur tout et qui vous dit tout, hein.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Bien, alors un petit peu de théorie économique. La théorie économique. Oui, je rappelle toujours cette merveilleuse phrase de Galbraith. Je devrais la dire avant chaque émission. L'économie, c'est extrêmement utile parce que ça permet de donner du travail aux économistes. Et donc, les économistes se sont chargés de réfléchir sur la productivité. Mais là, on ne peut pas leur donner tort parce que c'est vraiment utile, en effet. La façon actuelle de mesurer la productivité, eh bien, elle cache un peu les changements en cours dans nos sociétés. Le produit intérieur brut, qui est issu du monde de l'industrie et de l'agriculture, eh bien, ça suffit plus à décrire un monde qui est maintenant façonné par Google, par Facebook ou par Uber. Et ça a intéressé un industriel qui a publié un éditorial dans Les Échos, Jean-Paul Bête-Baiser. Je le précise parce que c'est pas un journaliste, donc c'est un point de vue un petit peu partisan, mais néanmoins fort intéressant. Et je vous le lis. C'est tristement officiel. La productivité, la richesse produite par heure, est en décélération constante. Elle est désormais plate. En même temps, nous allons à Londres, où la stagnation de la productivité inquiète les statisticiens. La Banque d'Angleterre dans une étude récente et le Trésor français dans une autre. Nous y voyons une économie vibrante. Quant aux start-up françaises, elles ne s'inquiètent pas tant que cela de la lenteur qui nous étreint. Et moins encore Los Angeles, même si Janet Yellen, la patronne de la Fed, faisant écho à la stagnation séculaire annoncée par Larry Summers, prévient que sans hausse significative de la productivité, il ne sera possible ni de croître, ni d'augmenter les salaires. Et si nous passions à côté de la révolution en cours, et si avec ce PIB qui nous vient de l'agriculture et de l'industrie du XIXe siècle, de l'effort physique lié à la machine, nous ne comprenions pas ce qui se passe dans ce monde de communication et de partage d'informations. Pis, nos analyses actuelles vont non seulement à l'encontre du diagnostic, mais plus encore de la solution. Il ne s'agit pas de craindre les robots destructeurs d'emplois après les Chinois, mais de voir comment gagner des emplois avec les robots. La lacune des mesures de productivité est d'être macroéconomique. Elle mélange ce qui naît à peine avec ce qui peine, ce qui révolutionne avec ce qui freine. Elle trouve une stabilité, mais elle vient de la lutte entre les espoirs et idées actuelles contre les savoirs anciens, les structures établies et autres avantages acquis. Le monde de Google, Apple et Facebook n'aiderait donc pas la productivité ? Agir plus vite et efficacement, communiquer plus finement, choisir plus précisément, mieux comprendre ce que veut et voudra tel client pour mieux le satisfaire, ne ferait donc pas plus de croissance ? Non, vous dit-on, puisqu'on appelle croissance toute dépense. On connaît les critiques anciennes, toujours valides, à cette approche du PIB qui nous plombe. Le mariage, où l'employeur épouse son employé qui travaille désormais sans salaire, fait baisser le PIB. Heureusement, pollution et embouteillage le font monter. Le PIB est davantage calculé en fonction du temps physique qu'intellectuel. L'innovation et l'astuce, soit faire autrement avec moins, deviennent pour lui récessives, comme les désintermédiations et autres ubérisations qui explosent. Que dire au prix Nobel Solow en 1987, qui s'inquiète de ces ordinateurs qui sont partout, sauf dans les statistiques, qu'il faut attendre que le processus se diffuse. C'est en cours. Toutes les entreprises sont sur Internet, celles qui refusent meurent. De plus en plus de salariés utilisent les nouveaux outils. Pas assez. Accélérons. Que dire à ces consommateurs qui préparent leurs courses et font leurs choix sur ordinateur, se renseignent et comparent ? Qu'ils doivent cesser de faire baisser le PIB ou continuer ? L'économie de la gratuité, puisque ces consommateurs ne sont évidemment pas payés pour chercher ce qu'ils vont acheter et ne posent pas de questions à un salarié à un comptoir, prépare des choix plus efficaces car mieux informés et marchands. Elle n'est pas récessive. Il faut donc améliorer nos mesures suite au rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi et en attendant les résultats, changer plus vite encore nos pratiques, formations et structures. Que dire aux jeunes chômeurs ? Que l'ordinateur est responsable de leur état ? Ou bien qu'il faut lier formation, apprentissage et création d'entreprises et que les entreprises grandes ou petites les attendent ? Elles rajeuniront. Nos mesures de productivité cachent les changements en cours. À preuve, la forte hétérogénéité des entreprises entre les toutes nouvelles, les en cours de restructuration et les autres. La croissance viendra de la réduction de ces écarts, avec et par les changements de structure et la diffusion des innovations. Voilà le chantier. Au lieu de dire que cette productivité, en fait mal mesurée, annonce la stagnation, il faut redoubler d'efforts de formation et de création de nouveaux outils d'information, communication avec les clients et les salariés devenus testeurs et coopérateurs. Nous entrons dans l'économie du partage. Les gains de productivité y seront plus élevés, les baisses de prix aussi. Ne regardons pas le futur avec les lunettes du passé. Voilà quelque chose de bien vivifiant. Ce n'est pas la première fois qu'on lit un point de vue qui est dans cet axe-là. Mais il faut le rappeler constamment parce que, souvenez-vous, c'est encore l'histoire des fabricants de chandelles qui, au moment de l'arrivée d'électricité, hurlaient en disant que non seulement on allait fermer leurs entreprises et ruiner leur activité, mais que bien évidemment, on mettrait des bataillons de chômeurs sur les trottoirs et que une ampoule électrique fabriquée par une machine, évidemment, ça ne pouvait pas remplacer les quatre personnes qu'on utilisait peut-être pour fabriquer une caisse de chandelles en une semaine. Je ne sais pas exactement quels étaient les critères, je l'ai dit un petit peu au hasard. Alors évidemment, si vous regardez aujourd'hui le siège social d'Hydro-Québec, vous aurez peut-être une autre impression. Ceci s'applique naturellement à d'autres secteurs, à commencer par tout ce qui se réclame d'Uber, dont je rappelle que c'est aussi un panier de crabes dans lequel il faut faire un peu de tri. Bien, alors maintenant reparlons un peu de cette merveilleuse société de loisirs. Ah oui, la société qui permet aux fabricants de croustilles d'en mettre plein les rayons des supermarchés pour que par brouette entière, on les achète avant de s'affaler dans un canapé avec toute sa famille. Mais non, pas du tout, il n'y a personne, les enfants sont plus là, la grand-mère est partie, et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est sur un site de rencontre dans sa chambre avec sa tablette, évidemment, et tout est comme ça maintenant. Donc, nos habitudes télévisuelles sont condamnées, non seulement à cause des téléphones et des tablettes, mais aussi en fonction des contenus. Eh bien, ça a intéressé Sophie Etienne dans Le Devoir du 8 août qui nous dit que les groupes de télé sont rattrapés par le virage numérique. Les grands groupes de télévision américains sont-ils rattrapés par le visage numérique? Le secteur est en perdition depuis deux jours à Wall Street, qui voit dans les derniers résultats trimestriels la concrétisation des craintes liées à l'essor de la vidéo en ligne. Disney a donné le coup d'envoi de la curée en concédant mardi soir de modestes diminutions d'abonnements pour ses chaînes câblées et en particulier pour la star d'entre elles, le bouquet sportif ESPN. Beaucoup d'investisseurs y ont vu la preuve que les consommateurs américains commençaient vraiment à couper le cordon de la télévision câblée. Traditionnellement offerte en coûteux abonnements imposants, l'achat groupé de dizaines voire de centaines de chaînes pour se tourner vers de nouvelles offres en ligne, meilleur marché permettant de regarder des vidéos à la demande comme Netflix ou une sélection allégée de chaînes en direct comme Sling TV. L'action Disney, jusqu'alors un record historique, a chuté, tenez-vous bien, de 9% mercredi et encore creusé sa perte de 1,8% jeudi. La lame de fond a emporté la plupart des titres du secteur. Viacom et 21st Century Fox ont plongé de 17% en deux jours, Time Warner de presque 10% et seul CBS a limité les dégâts, moins 1%. Disney a annoncé mardi soir après la clôture un bénéfice net record de 2,5 milliards en hausse de 11% sur un an. Son bénéfice par action était supérieur aux attentes, mais son chiffre d'affaires, en progression de 5%, légèrement en dessous. La forte baisse de l'action mercredi s'explique toutefois surtout, selon les analystes, par la révision à la baisse des prévisions du groupe pour ses chaînes câblées. La direction de Disney a prévenu que la croissance de leurs bénéfices d'exploitation serait un peu moins forte que prévu, invoquant l'effet défavorable du dollar fort, mais aussi l'essor de la vidéo en ligne, qui pèse sur les abonnements en chaîne. Le PDG, Bob Iger, a notamment reconnu que des modestes diminutions d'abonnements pour le bouquet sportif star ESPN. Disney était ces derniers temps évalué en bourse sur des bases plus favorables que d'autres groupes de médias américains en raison de son activité plus diversifiée, rappellent les analystes de RBC Capital Markets dans une note. En reconnaissant que la vulnérabilité à des pertes d'abonnés pourrait avoir un effet négatif sur les résultats de l'année prochaine, la direction a rappelé aux investisseurs que Disney ne peut pas complètement compenser le risque lié à l'écosystème des médias malgré le fort potentiel de ses marques à travers toutes ces plateformes. Tout ce charabia, c'est vraiment pour dire on regarde de moins en moins les contenus traditionnels, on regarde de moins en moins la télé et ça va s'accélérer. Les investisseurs réagissent à un sentiment croissant de risque avec une analyse négative qui suggère que tout le modèle d'activité est en train de s'effondrer. Il y a toujours eu des risques émergents pour le secteur, mais la plupart des investisseurs n'y faisaient pas attention avant les résultats de Disney. Ce qui a surtout choqué chez ce dernier, c'est que la victime soit ESPN, la marque que tout le monde pensait immuniser. Le sport, comme les informations, font partie des programmes censés être toujours regardés en direct à la télévision. Je fais une petite parenthèse. Vous croyez que Molson risque d'être touché par tout ça? C'est un peu embêtant parce que, bon, les croustilles, encore ça va. Mais alors, s'il n'y a plus les six packs de bière à côté du canapé en même temps que la brouette de... Oh là 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 là. Mais le monde change, c'est fou. Alors, tout en disant partager les inquiétudes autour des coupures de cordon, Neil Marker, expert en médias chez Morningstar, relevait dans une note cette semaine que 96% du sport regardé l'est encore en direct, fournissant des dépenses pour les chaînes traditionnelles. Cela pousse d'ailleurs Fox ou Time Warner à lourdement investir dans les droits sportifs. La télévision câblée reste bien ancrée dans les habitudes des Américains. Une étude réalisée au printemps par le cabinet Deloitte montrait certes que plus de la moitié d'entre eux regardaient désormais des séries ou des films en streaming. Mais seulement 3% des sondés avaient annulé leur abonnement à la télévision l'an dernier et 7% disaient l'envisager. Les difficultés sont plus grandes pour les chaînes pour enfants avec de la publicité, relevait néanmoins le mois dernier une étude de Morgan Stanley, évaluant que leur audience avait baissé globalement d'environ 30% depuis mi-2013, contre seulement moins 12% pour le reste des chaînes. La génération Internet, là on arrive au cœur du sujet, celle qui demain s'abonnera ou pas d'ailleurs, au forfait du câble, est plus encline à regarder des vidéos sur un smartphone ou une tablette. Elle a aussi accès à une offre croissante de programmes en ligne qui rivalisent avec la télévision. Une situation inquiétante pour des groupes comme Viacom, dont l'un des joyaux, pour ce lapsus qui n'aurait pas dû être fait parce que ces joyaux sont parfois un peu tristes, est Nickelodeon. Viacom, qui, de l'avis des analystes, était toutefois sanctionné à Wall Street jeudi pour la lourde baisse de ses recettes publicitaires aux États-Unis, quand même moins 9%, une autre source d'inquiétude latente depuis plusieurs trimestres dans le secteur. Les groupes de télévision ne restent pas non plus les bras croisés. Ils investissent beaucoup dans les contenus auxquels Internet offre de nouveaux débouchés. Décidément, je fais des lapsus dans tous les sens. Eh bien, ce qui débouche n'est pas ce qui débuche, d'autant plus que débouché ne veut rien dire. Bob Iger, le patron de Disney, assurait encore mardi regarder Netflix davantage comme un ami que comme un ennemi. Ça, c'est amusant, oui, oui. Ah oui, oui, c'est ça. Mon ami, je l'appelle mon ennemi, comme ça, c'est beaucoup plus facile pour le taper dans le dos. À cause des droits de diffusion qu'il lui achète. Certaines chaînes ont aussi lancé leur propre offre uniquement sur Internet, avec des résultats variables. CBS a assuré que chaque million d'abonnés en ligne pour Showtime équivaut à 100 millions de dollars de bénéfices. La concurrente HBO Now devrait en revanche générer des pertes pour le reste de cette année, selon sa maison mère Time Warner. Alors tout ça, c'est très bien, on voit de toute façon à peu près ce qui se passe. Simplement, je vais essayer juste de reculer un peu mon télescope pour prendre une vue d'ensemble du problème. C'est quoi le monde qui arrive? C'est quoi la société qui nous attend? Ben, c'est une société qui est basée sur deux grands axes. Le premier, c'est nous distraire. Et donc, c'est toute l'histoire de ces contenus, même s'ils évoluent. C'est vraiment un des grands piliers sur lequel est bâtie l'activité humaine. Et le second, c'est quoi? C'est nous protéger. C'est pour ça que nous protéger contre les risques. Ça veut dire que le monde, il est aux mains de deux superpuissances dans les années qui viennent et dans les décennies qui viennent. Les amuseurs et les assureurs. Essayez de vous trouver un truc entre les deux. Cette entraînante musique de Bastringue nous arrive directement du film Star Wars, vous l'avez peut-être reconnu. Et c'était un excellent choix musical de Mathieu Tessier qui assure la réalisation de cette excellente, tout aussi excellente émission. Et nous l'en remercions. Alors, si il a choisi cette musique de Star Wars, c'est pour annoncer Eh bien, un sujet qui concerne George Lucas, et tout le monde le connaît aussi, c'est le réalisateur de la trilogie Star Wars. Et on va moins s'intéresser à ses films que son activité humaine. Alors, on le sait, chacun de nous peut être tour à tour un égoïste insupportable ou un altruiste. Et bien sûr, inutile de dire vers quel côté vont les applaudissements. Mais que se passe-t-il lorsque la fibre altruiste anime un milliardaire aussi connu que George Lucas? Alors, ça a intéressé Elvire Camus dans Le Monde, qui nous parle de George Lucas, qui veut construire des logements sociaux au nord de San Francisco. Attachez-vous, on y va. Le boom de la high-tech et de ses employés, très bien payés, qui enflamment les prix à San Francisco, de l'autre côté du Golden Gate Bridge, se propage au reste de la région. En avril, le prix de vente médian d'une maison est passé à 1 million de dollars à Marin, et le prix de l'immobilier, vente et location, a augmenté de 13% en un an. À titre de comparaison, à l'échelle nationale, les loyers augmentent de 4 à 6% par an environ. Je pense que Marin est un exemple frappant de ce qui se passe dans toute la baie de San Francisco. Les prix de nos logements sont bien supérieurs à ce que les personnes qui travaillent ici ont les moyens de se payer. Nous n'avons pas encore atteint les niveaux de San Francisco, mais les hausses sont spectaculaires, explique Lily Thomas, en charge du développement urbain pour le comté de 258 000 habitants. Personnel médical, professeurs, policiers, employés administratifs sont parmi les professions les plus touchées. Comme la moitié des employés du comté, Tom Tucker, père célibataire de 38 ans, n'habite pas à Marin. Il passe en moyenne 2 heures par jour dans sa voiture à faire la navette entre son domicile et son bureau. Les logements à Marin sont inaccessibles. Je viens certes d'un milieu modeste, mais je travaille dur et j'aimerais pouvoir vivre là où je travaille. Philippe Thomas, 51 ans, est dans la même situation. Pour gagner du temps, il a investi dans une moto. En deux roues, il ne passe que 50 minutes matin et soir sur la route. L'hiver, en voiture, il passe près de 2h30 par jour dans les embouteillages. J'adore mon travail, mais ça devient trop compliqué pour moi. Je suis en train de réfléchir à quitter mon poste pour aller travailler dans le comté de Solano, où j'habite. En plus de l'aspect financier, les opportunités sont rares dans le comté qui construit le moins de logements de la région. Selon le dernier rapport sur l'habitat à Marin, des habitations plus petites à des prix de vente modérés sont nécessaires pour répondre aux besoins des célibataires, des seniors et des familles à faible revenu. Aujourd'hui, 12 000 personnes sont sur liste d'attente pour obtenir un « affordable housing », littéralement « logement abordable ». C'est ce type de logement subventionné que veut construire, nous y voici, George Lucas à Grady Ranch. Selon la loi américaine, il s'agit d'habitations dont le loyer ou le paiement du prêt ne doit pas dépasser 30% du revenu total d'un foyer. Pour y prétendre, il faut répondre à des critères financiers. Un travailleur qui gagne moins de 80% du revenu médian de la région, environ 133 390 dollars par an pour un couple en 2013, soit 121 640 euros à Marin, ça fait environ 150 000 dollars. Canadien, j'entends, parce que j'ai gardé les euros parce qu'un euro égale à peu près un dollar américain. Peut s'inscrire sur une liste d'attente, un senior doit lui gagner entre 30 et 60% du revenu médian. Alors oui, le projet semble répondre à un besoin important. En réalité, il est très compliqué d'entreprendre le moindre développement immobilier ou urbain à Marin. Vers la fin des années 50, alors que la banlieue de San Francisco, principal bassin d'emploi de la région, était en pleine expansion, une poignée d'habitants de Marin, soutenus par quelques politiciens, se sont battus contre le développement de centres commerciaux, autoroutes et autres lotissements que nombre de promoteurs rêvaient de voir pousser sur ce bout de terre idéalement situé. Les réserves formulées à l'encontre du projet vont des détails pratiques, comme le fait que les seniors seraient loin d'un centre de soins, l'axe qui dessert le ranch n'est pas relié par une ligne de bus, aux préoccupations environnementales, plus de résidents veut dire plus de trafic routier, donc plus de pollution, aux attaques directes contre ceux qui pourraient s'y installer. Lors d'une réunion au sujet du réaménagement de certaines zones de Marin, dont Grady Ranch, une mère de famille et agente immobilière a pris la parole pour exprimer son opposition au projet. On dirait que tu as fait de nous des volontaires pour le ghetto. Excusez-moi, j'en éternue parce que je sens monter cet horrible clivage entre les riches qui ne veulent pas des pauvres et les pauvres qui voudraient bien être riches pour à leur tour ne plus vouloir des pauvres. Mais dans quel monde vivons-nous? Et même M. George Lucas n'arrive pas à nous en sortir. Mais Dieu merci, il nous fait des films pour nous consoler et on les regardera 10 fois et ça nous donnera l'impression de pouvoir habiter à Marin. Bon, c'est pas sérieux ce que je dis pour commenter un article qui l'est vraiment et puis qui est triste d'ailleurs, donc on devrait pas rire. Eh bien, regardez, je vais vous donner le point de vue d'un monsieur qui essaye d'habiter à Marin. Moi, j'en pleure. D'ailleurs, vous voyez, mon éternuement, c'était pour cacher un sanglot. Cette réflexion, Tina Stolberg, qui travaille à Marin depuis 11 ans, en a eu vent. À 58 ans, cette bibliothécaire scolaire approche de la retraite Et c'est la vente de sa maison qui lui permettra de joindre les deux bouts une fois qu'elle ne percevra plus de salaire. Or, Madame Stolberg est bien consciente qu'elle ne retrouvera pas de logement à Marin si elle quitte son domicile. C'est pour cette raison qu'elle s'est inscrite sur la liste d'attente pour le futur lotissement de Grady Ranch. Et je suppose qu'elle a une photo de George Lucas dans son salon, dans sa salle de bain, dans ses toilettes, partout. Bon, si le projet voit effectivement le jour, qu'elle remplit les conditions financières et que son casier judiciaire est vierge, bah oui, on va quand même pas prendre des voleurs de mobilettes à Marin. Elle fera partie des candidats potentiels qui seront sélectionnés par tirage au sort. Alors, évidemment, il y a eu quelques commentaires du genre « Ah, ce projet va amener des gens qui ne sont pas de chez nous. Mais c'est faux, nous travaillons très dur, nous payons des impôts. Je ne comprends tout simplement pas d'où vient tout ce venin. » Alors, il y en a une autre, Anne-Marie, infirmière de 55 ans. Et elle travaille à Marin depuis que sa famille s'y est installée, tenez-vous bien, dans les années 1940. Eh bien, elle dit, je me rappelle, quand Marin était habité par des familles de la classe populaire, ça n'était pas comme ça. Aujourd'hui, le message est, si tu ne peux pas vivre ici, tant pis pour toi. PEP Housing, l'organisme à but non lucratif auquel George Lucas a confié son projet après qu'il ait remporté un appel d'offres, est très confiant étant donné l'immense avantage dont il bénéficie. Monsieur Lucas donne les terres et l'argent pour développer sa propriété. Selon mon expérience, c'est sans précédent. Assure Mary Storm, directrice de PEP Housing. Aux États-Unis, les logements à loyer modéré sont financés par un patchwork de sources d'argent venant pour une petite partie des gouvernements, mais surtout d'organismes à but non lucratif ou de fonds privés. Le dernier projet développé par PEP Housing comptait 13 unités de logements réservées aux seniors, 19 sources de financement différentes et a mis 7 ans à sortir de terre. Thomas Peters, président de la Marin County Foundation, dont une des activités est la construction et la gestion de logements sociaux, est moins optimiste. Selon lui, le projet n'a que 25% de chances de voir le jour en raison des autorisations qu'il reste encore à obtenir, mais aussi du pouvoir de nuisance des voisins. Mais c'est un solide 25% car il est mené par un homme de l'importance de M. Lucas, dont la terre a été attribuée il y a des années à la construction de logements, précise-t-il en souriant. Ce serait formidable que ce projet se réalise, c'est une question de justice. Et même si 200 habitations ne vont pas résoudre la crise du logement à Marin, il pourrait lancer une série de projets qui, en cumulé, pourront faire la différence. Alors, merveilleux espoir, merveilleux rêve. J'ai un peu peur que le rêve et l'espoir soient plus du côté du cinéma que des lotissements immobiliers. Bien, alors quelques brèves pour terminer ce panorama économique qui n'était pas très joyeux aujourd'hui, même si on a essayé de parler de cinéma, de télévision et d'immobilier. Tiens, d'immobilier, bah ça c'est ma première brève. Figurez-vous qu'il paraît que ça va mieux à Montréal. Ah, c'est extraordinaire. Je vous le dis souvent, il suffit d'ouvrir la presse économique et vous avez un article qui dit « Ah, le marché s'effondre, c'est affreux, vendez, c'est horrible parce que ça va plus rien valoir dans 6 mois et tout. » Puis vous, la page d'après ou le journal d'à côté, « Mais c'est formidable, le marché est en train de remonter. » Attendez, il faut surtout... Alors, faites le contraire. Ça, c'est encore de l'économie comme on l'adore. Moi, j'ai quand même été chercher des chiffres à la Chambre immobilière du Grand Montréal. Bon, eh bien, quand même, 2624 résidences ont changé de propriétaire et ça représente quand même une hausse de 2% par rapport à l'an dernier. C'est surtout les ventes de maisons unifamiliales qui ont connu la meilleure activité et elles sont en hausse de 7%. Hein? Bon, ben voilà. Alors maintenant, il y a des hausses et des baisses selon les endroits. Hein, en particulier, à Laval, ça se vend moins bien. Je ne sais pas pourquoi. Restez au centre de l'île si vous voulez acheter ou vendre. Bon, Windows 10, je vous en ai parlé, je ne vais pas recommencer. Ah tiens, je vais donner des petites nouvelles d'Uber parce que, évidemment, la concurrence s'organise. Un groupe de chauffeurs de taxi d'Ottawa a décidé de filmer à leur insu des conducteurs d'Uber pour accumuler des preuves pour aider les agents du service d'application des règlements municipaux à faire leur travail. Alors tout ça se retrouve sur YouTube. Hein. On voit un chauffeur taxi qui interroge sans lui dire un chauffeur d'Uber. Évidemment, tout ça dégénère complètement parce que vous savez bien comment ça se passe. Il n'y a aucun contrôle sur ce qui est comment c'est monté, comment c'est diffusé. Comment c'est employé ? Bon, enfin, voilà. Bon, je ne devrais même pas en parler parce que je suis sûr que je contribue à alimenter la polémique. C'est pas bien. Ah bon, alors, j'ai trouvé un truc pas mal en Asie, c'est la poire. Alors, qu'est-ce que c'est que la poire asiatique? Évidemment, vous ne connaissez pas, personne ne connaît la poire asiatique. Eh bien, figurez-vous que la poire asiatique, c'est un fruit. Si vous l'ingurgitez avant de boire de l'alcool, ça vous empêche d'avoir la gueule de bois. Et c'est le seul ingrédient alimentaire qui a ces propriétés. Donc, filez à Chinatown si vous en trouvez encore, parce que après que j'en ai parlé, évidemment, les prix vont monter et puis on n'en trouvera plus. Mais il paraît que c'est efficace. Ça a été testé par le Commonwealth Scientific and Industrial Research, donc qui est tout à fait sérieux. Et d'ailleurs, il paraît que tous ceux qui ont fait l'étude ont essayé, après ont ingurgité chacun 1 litre de vodka et tout le monde était frais comme un pinson. On ne sait pas s'ils ont pris leur voiture. Et je termine avec cette dernière brève. C'est encore quelque chose qu'il faut absolument que vous procuriez. Figurez-vous, une semelle qui permet de perdre du poids. Hein? C'est pas extraordinaire. Eh bien, elle s'appelle Thin Ice. Elle est déjà en vente sur Internet. Et en 8 jours, on en a vendu pour des milliers et des milliers de dollars. Donc, si vous en trouvez encore, eh bien, à vos claviers. Et puis, on en reparlera pour savoir si ça marche vraiment. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Et au plaisir de retrouver François Brodeur. Bonne journée.